Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Au début de cette joyeuse rentrée, il fut demandé aux étudiants d'une école de commerce à Lille de marcher dans la ville en imitant un canard et d'interpeller les passants en criant « J'en chie et j'aime ça ». Cette histoire et celles qui suivent ont été racontées sur LCI. Après, chaque étudiant devait glisser la main dans l'entrejambe d'un autre et il devait marcher comme ça de conserve. Dans une classe préparatoire à Lyon, les premières années, les étudiants devaient ramper en aboyant et en se faisant fouetter sur une place de la ville. Une autre humiliation de la même prépa, soi-disant inspirée du Marquis de Sade, consistait à mimer en public un acte sexuel. Généralement, beaucoup d'alcool, ingurgité de gré ou de force, accompagnent ces pratiques littéralement moyenâgeuses, mais qui ne sont pas non plus monnaie courante. En 1998, Ségolène Royal, alors ministre déléguée à l'enseignement scolaire de Lionel Jospin, fit voter une loi interdisant formellement le bizutage lorsqu'il implique des actes humiliants ou dégradants. En 2016, la loi fut complétée par l'interdiction d'amener à une consommation excessive d'alcool. Mais dans les faits, même si les mentalités ont évolué, ces lois sont peu appliquées. Selon des chiffres qu'a pu obtenir Le Monde auprès du ministère de la Justice en 2016, seulement 34 condamnations définitives pour délit de bizutage avaient été prononcées. En cause notamment des preuves difficiles à apporter en raison, entre autres, de la difficulté à apprécier la notion de ce qui est dégradant ou pas. Tout de suite donc dans les pieds sur terre, deux histoires un peu particulières, c'est le moins qu'on puisse dire, de bizutage, dégradant ou pas, à vous de voir. Et ce sont des récits de Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Théo Timaubert, j'ai 25 ans. Je suis rentré donc à l'université Paris-Dauphine en 2011, juste après le bac, en septembre. Et les faits se sont déroulés en octobre, donc un mois plus tard. L'université Paris-Dauphine est assez connue pour son activité associative qui bouillonne, où il y a vraiment plein de choses, plein d'associations, etc. Ça donnait assez envie de participer à quelque chose et rencontrer des gens et s'en sentir appartenir à un groupe. Mon choix s'est porté sur une association qui s'appelait la JAPAD, Jeune Association pour la Promotion des Activités Dauphinoises. Je savais qu'ils organisaient le gala, donc c'était un événement qui était très prestigieux à Dauphine, qui organisait aussi d'autres événements, et que c'était une des associations les plus anciennes. Sauf que je ne m'étais pas forcément beaucoup renseigné sur comment se déroulaient ce qu'ils appelaient les entretiens de sélection, et j'y suis allé un peu... à l'improviste, les mains dans les poches. Et en arrivant, c'est un couloir des associations. Et je croise quelqu'un de ma classe qui me dit « Mais est-ce que t'as ramené à boire ?» Alors je dis « Non, j'ai rien ramené. » Toi, elle me dit « Bah tiens, prends ma bouteille. Finalement, j'en ai pas besoin. » Et elle me passe une bouteille de vodka qu'il fallait apporter aux gens de l'association qui faisaient passer l'entretien. Et donc, je me suis pointé avec ma bouteille que j'avais reçue une minute avant, quoi. Juste avant d'entrer, il y avait quelqu'un qui garde la porte du local qui me dit « Bah tiens, faut que tu boives cul sec, tout ça. » C'était des petites bouteilles de bière, plusieurs à la suite. Ok, bon, je m'exécute. J'ai un peu de mal à finir, c'est pas forcément facile pour moi, mais bon, je le fais. Je rentre dans la pièce et c'est assez déstabilisant parce que c'est un petit local... avec les fenêtres qui sont un peu calfeutrées, donc c'est une ambiance assez obscure, assez sombre. Il y a beaucoup de personnes dans la pièce qui sont assis en U, avec les trois dirigeants de l'association qui sont face à moi et qui sont assis sur des chaises et qui vont mener les débats. On me dit de me mettre en caleçon, d'enlever tous mes vêtements sauf mon caleçon. Là, à partir du moment où je rentre dans un schéma où j'ai plus rien maîtrisé, donc on me fait asseoir sur les genoux au milieu. À côté de moi, il y a une bassine, une sorte de bassine pour vomir. Et on commence à poser des questions, c'est des questions de motivation. Et puis on m'a refait boire aussi. Là, j'ai vomi à plusieurs reprises dans la bassine prévue à cet effet. Il y avait des gens autour. Il y en avait un qui avait un pied de biche à côté de lui. Si je répondais mal à une question, ou alors ils estimaient que je répondais mal à une question, bah, on me frappait dans les côtes. Par exemple, il y a une question, on m'a demandé « Est-ce que t'as déjà fumé ?» Et bam, coup de poing dans les côtes. « Ouais, non, on n'aime pas ceux qui fument, machin, etc. » Et puis le coup venait de nulle part. J'avais l'impression que d'un coup, il y avait une main qui sortait et qui me frappait avec la paume fermée comme ça dans les côtes. Du coup, on se dit mais qu'est-ce que je dois faire? Je comprends plus rien. Voilà. Moi, quand je suis très stressé, j'ai souvent tendance à me toucher les cheveux. Ça leur plaisait pas que dans ce moment de stress, je sois comme ça. Ils disaient arrête de toucher les cheveux, on va t'attacher. On m'attache les mains à un balai pour faire. Donc j'avais les mains en l'air et le balai à l'horizontale qui reposait sur ma nuque. Et là, je sens qu'il se passe quelque chose dans mon dos. Ça me griffe beaucoup. C'est douloureux, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je sens une grande griffure en diagonale dans mon dos, ça me fait mal. Et après, on me verse du liquide dans le dos et ça me brûle. L'entretien se termine comme ça, je sais pas exactement combien de temps ça a duré, je sais plus du tout. Je suis complètement dans un état second, je suis complètement ivre, et mentalement parce que, ouais, mais je comprends pas ce qui s'est passé. C'était vraiment une parenthèse dans l'espace-temps, où la réalité, pour moi, s'est arrêtée. C'est très particulier à vivre, quoi. Et ils me disent, bah voilà, rentre chez toi, on va étudier ton cas, on verra si tu rentres, voilà, si t'es pris dans l'association ou pas. Donc je rentre chez moi tout seul, complètement ivre. J'avais déjà eu des cuites, comme on dit, mais pas à ce point-là. Et surtout, une telle rapidité, quoi. Je revomis encore dans ma baignoire, et puis je me couche parce que je suis vraiment complètement KO, quoi. Ma mère rentre du travail, je me lève tant bien que mal, vraiment pas bien, et d'un coup, elle me voit dans mon dos, elle me dit « Qu'est-ce qui t'a dans le dos ?» Et en fait, il m'avait gravé dans le dos « Japad ». En lettres de sang. Donc j'avais Japad dans tout le dos et une diagonale après qui faisait de haut en bas le dos. Elle fait venir SOS médecin qui, pour constater un peu les blessures que j'avais, elle vient me voir le matin, elle me dit « Totim, il faut absolument que tu portes plainte ». Et moi au début je voulais pas. J'avais vraiment honte de moi d'en être arrivé là, et honte parce que j'avais été dans une position honteuse où on m'avait fait des choses qui m'avait atteint dans ma chair et j'avais rien pu faire, rien su faire. Et honte parce que je me dis, bah oui, mais j'y suis allé à l'entretien, est-ce que j'ai une part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé? Ma mère me convainc d'aller porter plainte donc au commissariat à côté de chez moi. Et sur le chemin, je reçois un appel de quelqu'un de l'association qui me dit, en fait, voilà, malheureusement, t'es pas pris dans l'association. La vie suit son cours comme ça. Moi, je suis très mal à l'aise à l'université. Je me sens seul, ça parlait que de ça. T'as vu ce qui s'est passé, c'est incroyable, mais qui ça peut être? Là, j'avais encore plus l'impression que c'était marqué sur moi, que tout le monde le savait. Et parce que du coup, l'université a très vite réagi, a interdit la Japad, et très vite après, il y a eu un conseil de discipline qui a été mis en place par l'université, et des mises en examen. De personnes, donc les trois dirigeants de l'association et celle qui m'avait gravé les lettres dans le dos. Bah moi je sais que voilà, dans les perquisitions ils ont trouvé des capsules de bière, apparemment c'était avec ça qu'ils m'ont gravé dans le dos.
Vous étiez littéralement coupé en fait avec le rebord de la capsule.
Ouais,
en fait,
ils m'avaient gravé dans le dos les lettres de l'association. Heureusement j'ai plus de traces physiques aujourd'hui. Mais c'est resté assez longtemps quand même. J'ai dû vivre avec cette marque dans le dos, avec leur signature, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me marquera toute ma vie. La valeur que j'avais à ce moment-là, c'est moins que rien, quoi. La procédure pénale fait que c'est très long. Ça a duré 3 ans. Ça s'est terminé quand j'étais en L3, avec le procès. Et donc, il y avait des moments de pause. J'étais sur une pente ascendante, voilà, dans ma phase de reconstruction, avec tout ce que je pouvais vivre dans la fac et aussi en dehors, bien sûr. Et puis, après, je recevais une convocation du juge d'instruction. Notamment, je me souviens de la confrontation qui a été organisée par le juge d'instruction dans son bureau avec les mises en examen pour confronter les versions. Et ça a été un moment très difficile à vivre parce que c'était la première fois que je revoyais les personnes, pour certains, qui m'avaient fait ça. Depuis qu'ils s'étaient fait exclure de l'université, ils étaient quatre avec leurs avocats et moi j'étais tout seul. Vraiment, il y a un sentiment de solitude qui est pas facile à vivre. Il faut s'accrocher et j'étais content que ça se termine. Par contre, le tribunal est allé au-delà des réquisitions du procureur de la République. C'est-à-dire qu'il a jugé plus sévèrement que ce que avait requis le procureur. Avec du sursis et une amende et des dommages et intérêts à mon profit. Mais c'est comme ça que l'affaire, en tout cas l'épisode judiciaire, s'est terminé. Le gain, c'était déjà qu'on reconnaisse ce qui m'était arrivé. Un gain vis-à-vis de moi-même d'être allé jusqu'au bout, malgré tous les moments où j'avais envie d'arrêter, où je me dis c'est trop dur, je veux juste qu'on me laisse tranquille. Et puis aussi, j'ai eu des excuses de leur part. Et ça fait beaucoup de bien qu'on reconnaisse que ce qu'ils ont fait est pas normal et qu'ils nous ont fait du mal. Et ça, c'est... Ça vaut beaucoup de choses. Là où j'estimais avoir gagné, c'était surtout vis-à-vis de moi-même.
France Culture, les pieds sur terre.
Moi, donc, c'est Johan, j'ai bientôt 40 ans, donc baptisé en 2000, lors de mes études à la faculté de Liège, en Belgique. Filière kinésithérapie, éducation sportive. Le terme bisu, je pense, c'est vraiment un terme qui est très français. On parle pas de bizutage en Belgique. Voilà, tu fais ton baptême, t'es baptisé, il y a les baptisés et les chroniques. Le baptême est quelque chose qui se fait en début d'année. Il dure 6 semaines. L'idée, c'est de te faire connaître un peu les gens de ta promo, connaître l'esprit de la fête, l'esprit de la guindaille, comme ils appellent ça, l'esprit de l'étudiant liégeois. On ne peut pas bizuter quelqu'un si on n'est pas passé par les mêmes épreuves, entre guillemets, qu'on lui fait endurer. Moi, j'ai bizuté 2 années parce que j'ai été bizuté avant. C'est quand même quelque chose qui est assez bien structuré. Et les gens qui encadrent les bizutages, il y a des hiérarchies. Le plus bas dans la hiérarchie, ce sont les assistants. Après, tu as les togés. Et après, tu as le président, la présidente. Moi, j'étais assistant. Donc, tu es assistant dans un comité de bizutage. C'est-à-dire que tu encadres les bleusailles. Tu as une bleusaille par semaine. C'est là où tout le monde se réunit. Et tu fais t'as des épreuves. Des fois, ça va être des tournées dans les bars où tu fais boire les gens, tu vas les noter sur leur capacité d'encaissement, d'arriver à tenir la bleusaille. La bleusaille doit durer plus ou moins 2 heures. Tu vois leur endurance. Généralement, t'es face à face, t'as une main sur le cœur, une main, t'as ta bière dans la main, et tu dis à main, à bouche et à cul nom de Dieu. Et à la fin de ton cul sec, tu dois garder ton verre aux lèvres tant que la personne en face de toi n'a pas fini son verre. Et une fois que les deux ont fini leur verre, on se fait la bise. J'étais pas le plus méchant dans les trucs que je fais faire. C'est obligé à chanter, mais à gueuler très fort. Tu les mets gueule en terre.
Gueule en terre.
Gueule en terre. Alors, gueule en terre, c'est une position que tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup quand tu fais ton baptême. C'est une position, en fait, où t'es à genoux. Tu te penches en avant, la tête entre tes genoux, et tu agites tes mains derrière toi et tu fais tourner tes mains. Et tu restes en gueule en terre, tu dois attendre que quelqu'un du comité te dise de te relever. Tu as une formule de remerciement en fait à prononcer à chaque fois qu'on te relève. On va dire, c'est souvent « Oh, merci à toi, illustre, honoré, honorable, vénéré, vénérable, incommensurable. » Voilà, après, ça pouvait être faire manger. Alors, des crasses, les crasses qu'on faisait manger, ça pouvait être des croquettes de chien, ça pouvait être des verres de farine sur des petits toasts, des trucs où ils devaient boire un truc, faire une roulade avant, reboire un truc, faire une roulade arrière, manger une croquette, faire ce genre de choses, tout seul, à deux. Parce qu'il y avait une émulation de groupe où il fallait quand même être présent. Ça fait un peu comme une bande un peu de Doberman ou de bergers allemands qui sont autour de leur troupeau de moutons là et qui doivent qui les maintiennent et qui leur gueulent dessus pour que les moutons ou les bleus restent bien ensemble et limités. Après, il y avait rien Il n'y avait rien de sexuel, on n'a jamais fait des mises en des oppositions entre filles et garçons, on n'a jamais demandé à qui que ce soit de se mettre torse nu ou je sais pas quoi, rien de tout ça. C'était plutôt des épreuves un peu physiques, savoir son carnet de chants, parce qu'il y avait plein de chants folkloriques, liégeois, tout ça, que tu devais connaître, donc on les faisait chanter aussi beaucoup. S'il y en avait qui se rataient, eh ben ils étaient gueules en terre, ils refaisaient des choses comme ça, mais... Voilà, des fois, il y en a qui vont prendre ça pour des formules agressives, parce qu'effectivement, on t'insulte, on te dit que t'es un bleu de merde, on te dit que t'es de la merde, tu vois, c'est un peu le même style que le sergent instructeur-chef dans Full Metal Jacket, où le gars, quand il a ses GI qui font leur classe, eh ben, il est pourri du matin au soir, en leur faisant faire des activités physiques. Mais voilà, ça s'arrêtait là, il n'y avait rien, encore une fois, il n'y avait rien de dégradant, il n'y a pas eu de scarification, il n'y a pas de brûleur de cigarette, il n'y a pas de jet de peinture, on colle personne dans un placard et ils doivent faire tout et n'importe quoi. Non, ça peut arriver que des gens abandonnent, c'est rare, mais moi en tout cas quand j'étais assistant, j'ai personne qui a quitté en cours de route. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui peuvent être marrants à faire. Voilà, t'amènes tous ces gens-là jusqu'au baptême. C'est un grand événement qui se passe donc toujours autour de la mi-novembre. Et c'est le point final. Effectivement, les gens ont traversé 6 semaines de bleusailles, de gueule en terre, de mise à mal, de choses comme ça. Et donc, l'épreuve du baptême se fait sous un chapiteau. Et le chapiteau, il est mis en place par le président, les taugés, tout ça. Donc, il y a quand même du boulot à faire ce jour-là. C'est une sorte de parcours rituel où tu commences dans la paille en tant que bleu, en tant que merde, et tu fais tes épreuves pour finir dans l'épreuve du président. Il te baptise et là, tu es sorti de ta chrysalide de bleu, de merde, pour finalement être baptisé kiné. C'est toujours des codes auxquels il faut respecter. C'est-à-dire que quand tu fais ton baptême, les mecs sont à poil. Et les filles sont en bikini. Donc, dis-toi que tu passes, ça doit commencer pas avant 9h30, 10h le soir, donc mi-novembre, t'as froid. Bah, après, ils t'appellent. C'est un parcours en U, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce parcours, les gens peuvent le voir. Seulement les gens qui ont été baptisés. On peut te clasher, donc te clasher, c'est t'envoyer de la bière, et à t'insulter en disant que tu fais de la merde, que t'es qu'une merde, que t'arriveras jamais à faire l'épreuve, que t'es pas fait pour être kiné, que t'arriveras jamais à être baptisé. Voilà, ils essayent jusqu'au dernier moment, certains, de te faire perdre pied et de te faire renoncer limite à tous les derniers efforts que tu peux faire. Tu vas chanter, tu vas danser, tu vas manger, alors là pour le coup, tout et n'importe quoi. Toujours des vers, de la pâtée pour chien, de la pâtée pour chat. S'il y avait des gens qui vomissaient, ils gardaient le vomi dans un bol. Et ceux qui rataient des épreuves, ils jetaient ça sur la gueule des bleus qui n'arrivaient pas à faire les épreuves. Ça, je me rappelle de ça. Après, donc, t'as des épreuves physiques, toujours des pompes, des trucs comme ça. Et à la fin, on te baptise dans une baignoire de sang, du sang de taureau. Par contre, à l'intérieur, il y a des testicules de taureau et un pénis de taureau. Et normalement, tu dois jouer avec ça. Alors, ils te demandent, les filles, généralement, ils leur demandent d'attraper les couilles avec du taureau avec leurs dents. Donc, ils doivent mordre dans les couilles et ils doivent sortir de la tête de la piscine avec les couilles dans la bouche. Les mecs, on devait prendre le pénis du taureau, le mettre à la place de notre pénis et pour voir, ah, t'as vu, t'as vraiment une petite bite par rapport au taureau, t'as vu et tout, t'es vraiment toujours qu'une merde, t'es sûr de vouloir être baptisé? Oui, président, je veux. Alors, gueule en terre. Et puis, je me rappelle, moi, j'avais dû faire une roulade avant dans la baignoire, une roulade arrière. Et après, il m'a mis gueule en terre et quand il m'a dit de me relever, que j'ai bien dit sa formule de remerciement, et ben après, il m'a dit, c'est bon bleu, félicitations, t'es baptisé. Et voilà. Et après, là, c'est-à-dire que là, maintenant, t'es baptisé et tu peux faire la fête, entre guillemets, comme un vrai liégeois, un vrai étudiant belge. Voilà, quand toi, t'es baptisé, les années qui suivent, tu peux être parrain de bleu. Pour être parrain d'un bleu, tu fais des enchères, en fait. À la fin de la première bleusaille, t'as chaque bleu qui passe sur une table, un tonneau, bref, ce que tu veux. Et c'est là où on les met aux enchères. Donc, tous les gens qui sont baptisés lancent les enchères. Les enchères, faut savoir que ce sont des bières que tu vas payer et que tu vas boire cul sec. Donc, ça commence généralement par 2 bières, 3 bières, 5 bières. Ceux qui sont Les plus hauts, on va dire les plus grosses enchères, je pense, ça doit tourner autour de 20-30 bières. Et bah, une fois que tu as ton enchère, tu vas récupérer ton bleu. Et ben voilà, tu fais connaissance avec lui et c'est comme ça que ça se passe. Moi, la première année, j'avais eu deux bleus que j'ai suivis pendant de leur première bleusaille jusqu'au baptême. C'est-à-dire que tu lui apprends ce qu'on appelle la vie de château chez toi, où tu, encore une fois, le gars, il sait qu'il est, il est à tes bons ordres. Ils vivaient chez eux tout ça, mais par exemple, je pouvais leur demander très bien de venir laver ma voiture. Ils devaient laver ma voiture. Ils faisaient mes courses. Ils me faisaient à manger. Ils me donnaient à manger, ils me donnaient à boire. Si je leur demandais de me donner la béquille, ils me donnaient la béquille, quoi.
La béquille ?
Bah, si j'avais la flemme de manger tout seul, je leur demandais de me couper ma viande et de m'amener la fourchette, de me faire manger tout seul comme si j'étais un bébé. Voilà, ils devaient le faire. S'ils le faisaient pas, c'était gueule en terre. À genoux bleus, et ils devaient me remercier. Ils ont fait aussi office de table basse. Une fois où ils étaient à quatre pattes et puis je regardais la télé, puis je mettais mes pieds sur leur... J'étais dans mon canapé et puis je mettais mes pieds sur eux. 5 minutes, 10 minutes, voilà. Après, chez moi, je leur gueulais pas dessus un petit peu, mais vraiment là, c'était plus leur montrer que j'étais au-dessus d'eux et qu'ils faisaient, encore une fois, toutes les tâches ménagères pendant 6 semaines. J'ai fait quasiment aucune tâche ménagère chez moi. Ils passaient l'aspirateur, ils faisaient le balai, ils faisaient ma vaisselle, voilà. Et je leur disais alors... C'est bien bleu, elle est belle la vie de château. Il devait répondre oui, oui Johan, quoi, ce genre de choses. C'est plein de petits trucs comme ça, mais j'ai jamais été, voilà, j'ai jamais été sadique aussi bien en tant qu'assistant qu'en tant que parrain. Le but du jeu, c'est que les gens s'amusent, c'est pas qu'ils se sentent dégradés. Tu montres le lien de subordination, mais tu vas pas commencer à dire que tu ne profites pas, t'exagères pas par rapport à la situation. C'est vraiment ça. Il n'y a pas eu de choses dégradantes, ni lors des baptêmes, ni chez moi. J'ai jamais, voilà, encore une fois, j'ai jamais éteint une cigarette sur le corps de quelqu'un, d'un bleu ou quoi que ce soit. Ils étaient à mon service. Voilà, c'était un peu mes boys, mais ça on en reste là. Hein. C'est vraiment tout. Il faut savoir qu'on peut être plusieurs baptisés à avoir un seul bleu. Parce que des fois, encore une fois, ça peut coûter un peu cher. Et moi, je sais que la deuxième année, on avait pris une nana qui était plutôt mignonne. On était deux parrains. Je ne sais plus combien de bières on avait bu pour elle. Et on avait quand même mis la barre assez haute pour pouvoir se dire « Tiens, on a une bleuette qui est super mignonne et tout ça. » Et le truc qu'on lui a demandé de faire, c'était de nous servir un repas en étant déguisé en bunny. Voilà. Donc... Elle était, on va dire, en bikini. Alors, bikini au mois d'octobre, c'est peut-être pas... Mais elle avait des oreilles de lapin, en mode un peu... Ouais, elle était en bunny, quoi. C'était le seul truc, on va dire, où on pourrait avoir abusé sur le respect de la personne. Voilà, la personne, tu lui demandes, bah, tu viendras, sauf que tu seras en maillot de bain, oreilles de lapin, et puis un petit bunny au niveau des... La petite queue de lapin au niveau des fesses. Voilà. Tu le fais aussi parce que tu sens la personne à qui t'as affaire en face. C'était une des raisons où on voyait que la nana, elle était bonne vivante, elle était pas là à se formaliser ou quoi, plus que ça. Elle était dans l'esprit, elle savait qu'il y avait rien de méchant là-dedans, il y avait rien de pervers, il y avait même pas de lien de séduction. On était avec deux, dont étaient deux parrains, tous les deux on vivait avec nos copines, il y avait même pas de dragouille là-dedans. Non, c'était juste, t'es ma bleuette. Je veux que tu me serves à manger en un bunny. Moi, par exemple, je reviens là-dessus, là, parce qu'il y a des anecdotes qui reviennent un petit peu. Pendant mon bizutage, une fois, en étant gueule en terre, on me disait « debout poro ». Et je me relève pas. Et ils me disent « debout poro ». Et je savais pas qu'on me parlait à moi. Ils m'expliquent, ils me disent « mais t'es vraiment un conte français, toi, pour pas savoir que t'es un poro. Mais t'es un poro !» Et c'est resté. Et moi, je suis devenu le bleu poro. À Liège, quelqu'un qui est un poro, c'est un abruti. C'est quelqu'un qui est bête. Je me rappelle, ma présidente m'avait obligé, elle m'avait dit « Le bleu poro, il est où ?» Bon, tu devras aller à la cafétéria déguisé en bleu poro. J'ai joué le jeu, ce que j'ai fait, c'est que j'avais acheté plein de poireaux et je m'étais fait une couronne avec des poireaux et je m'étais fait aussi une ceinture avec plein de poireaux qui dépassaient et je m'étais baladé comme ça dans la cafette, torse nu un peu comme une vainée et je m'étais mis sur une table à essayer de déhancher comme une vainée et tout ça et les gens étaient morts de rire et tout ça et c'est resté. Chaque bleusaille, je devais me faire une couronne de poro. En tant que baptisé, en tant que parrain, en tant qu'assistant, je pense que j'ai un peu fait ce qu'on m'a fait vivre. J'avais pas de volonté absolue de faire souffrir physiquement, moralement, parce que voilà, moi j'ai le sentiment lors de mon baptême, lors de mon bizutage, on va dire, j'ai le sentiment d'avoir aussi été bien traité, quoi, en tant que individu, en tant que bleu. Et voilà, et tout ce qu'on m'a inculqué pendant ce que j'ai fait pendant mon baptême, bah, je l'ai retranscrit après aux autres. C'est pas ni plus ni moins. Donc non, c'était cool. Moi, je regarde encore une fois, j'ai pris ça vraiment au 36e degré. Tout ce qu'on m'a fait faire, c'était gentil, ou ça se voulait pas méchant, foncièrement méchant. Il s'attaquait pas à moi, Johan. Voilà, c'était le bleu. Voilà, t'es le bleu qui naît, qui essaye d'être baptisé. Bah, en attendant d'être baptisé, mon gars, entre-temps, tu vas en chier. Voilà, c'était ni plus ni moins ce genre de constat que j'ai pu faire. All my life, I've played a part in the bombs above, the ones you love. Taking a moment to apologize. I should have done more to stop the war. I'm sorry.
Des histoires de bizutage, c'était un reportage de Valérie Borst réalisé par Yaël Mandelbaum. Merci à Théotime, à Johan et à Maître Loïc Dussault. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et bienvenue à Nino Lima, qui est notre nouveau stagiaire. But it's hard to say what I've been through. Should matter to you. A man so drunk he could hardly stand. Told me once, holding my hand. Suffering's the same for everyone. He was right. But I was wrong to agree.